Bonjour, M. Delgarab.
Bonjour.
Vous étiez au pot organisé par la majorité pour la fin de la session parlementaire, c'était lundi soir. Le président de la République est venu s'adresser aux parlementaires pour leur dire qu'il avait besoin d'eux, qu'il comptait sur eux pour le temps qui lui reste de son mandat, les fameux 600 jours. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron a réussi à galvaniser ses troupes?
Oui, absolument. Il est passé de manière impromptu, puisque c'était un pot avec les trois groupes de la majorité. Et effectivement, il a tenu un court discours, mais un discours galvanisateur pour essayer un petit peu de remonter aussi le moral des troupes, parce que on a quand même passé une année compliquée, avec une reprise, dès le mois d'avril, dès le mois d'avril-mai, qui a été très très dur, avec un travail à distance qui a été compliqué, puis une reprise physique à partir du mois de juin où voilà, on n'a pas arrêté. Donc c'est vrai que c'était un petit peu disons fatigant pour beaucoup, et la fin disons de la session extraordinaire que nous vivons cette semaine est encore plus éprouvante, avec un texte très compliqué sur
la bioéthique. Ouais. Vous avez tweeté quelques instants après ce pot, donc, et cette rencontre avec le président de la République, une majorité claire et soudée pour que la France se relève. Et pourtant, depuis plusieurs mois, les groupes dissidents du groupe majoritaire La République En Marche se sont multipliés. Vous-même, vous êtes aujourd'hui au sein du groupe Agir Ensemble. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir une majorité unie?
La question des groupes, je pense que les Françaises et les Français, enfin, s'en fichent un petit peu.
C'est pas faux.
En vérité, non. Ce qui est bon à savoir, c'est qui est dans la majorité, qui ne l'est pas. Et quand on voit le vote de confiance qui a été fait au Premier ministre Jean Castex, on voit que la majorité est large, claire. Et autour de la table aujourd'hui, vous avez Agir Ensemble, le MoDem, La République En Marche.
Mais à quoi ils servent ces groupes supplétifs de la majorité?
Je dirais pas supplétifs. Disons que le MoDem a sa propre existence. Ouais. Il était créé bien avant la République En Marche, avec une personnalité forte autour de François Bayrou. Et c'est vrai que Agir Ensemble, nous, on s'est posé des questions, mais effectivement, on est dans la majorité, mais on n'est pas La République En Marche, parce que on a aussi notre regard critique, on est indépendant, libre. Vous savez, vous avez en face de vous un berbère, un mazir, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais un homme libre. Moi, je suis un homme libre, et donc je ne peux souffrir de recevoir des consignes un peu trop, disons, appuyées. Donc, dans un groupe pléthorique avec des consignes un peu trop écrasantes, je ne me serais pas, disons, senti à l'aise.
Voilà. Est-ce que vous avez j'ai l'impression que la dernière partie du quinquennat d'Emmanuel Macron va être très orientée sur les questions ou vers les questions de sécurité?
Je ne pense pas, et je pense que ce serait une erreur.
Je rappelle que quelques instants après avoir été vous voir au pot, il a été rendre visite aux policiers de la BAC.
Absolument.
Des BAC, les brigades anticriminalité.
Absolument, vous avez raison, et on voit qu'il y a une volonté de reprendre les sujets régaliens, disons, la justice, la police. Certainement, demain, nous aurons aussi beaucoup de séquences armées, etc. Mais moi, je pense que ce serait une erreur, et je crois que il faut essayer, au contraire, d'appuyer fortement sur l'économie. Si on fait du sécuritaire, du régalien, je crois que les sujets économiques, vous savez, les personnes, elles veulent, nos concitoyens, les gens veulent manger, ils veulent travailler et se loger. Et moi, je pense que c'est plutôt sur ces sujets-là qu'il faudra appuyer. Après, je suis pas l'exécutif, vous savez, nous, on est le pouvoir législatif, on vote les lois, et on contrôle le gouvernement, mais on n'est pas le gouvernement.
L'homme libre que vous êtes, a-t-il été choqué, gêné par le terme « ensauvagement » d'une partie de la population employée par le ministre de l'Intérieur?
On est toujours gêné quand on utilise des mots qui sont, entre guillemets, un ADN d'extrême droite. Donc on est toujours un peu gêné quand on entend ça, mais je peux le comprendre dans le sens où quand on voit la jeune fille qui a été traînée par ces jeunes délinquants,
sur 800 mètres, c'était à Lyon,
c'est criminel, c'est pas des sauvages, c'est des barbares. c'est des barbares. Donc il y a des choses qui sont faites par certaines et certains. Quand vous voyez des images où vous avez des gens avec des kalachnikovs qui tirent dans le ciel, des ouais. voitures qui font il y a certaines situations où
dans lesquelles le terme
sauvage, voilà,
le terme est sauvage
est plus qu'approprié, barbare, sauvage, on pourrait aller bien plus loin.
Vous êtes député des Français de l'étranger, il y a le Maghreb et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest dans votre circonscription. Y a-t-il aujourd'hui des difficultés particulières que rencontrent nos compatriotes expatriés en raison de la crise sanitaire ?
La première des difficultés, c'est celle de venir en France. Aujourd'hui, vous savez, l'espace aérien est fermé. Et donc, toutes celles et ceux qui, en Afrique de l'Ouest, notamment dans des zones en guerre, ont voulu... comme chacune et chacun a pris une période difficile et eux ils sont en isolement mais ils sont ils ont pas été confinés cette année, ils sont confinés depuis 2013, 2011 pour certains et donc ils vivent dans ce confinement dans des villes où on est dans des pays en zone rouge. Donc pour celles et ceux qui vivent ça, effectivement, c'est encore plus difficile puisque là le confinement était encore plus strict, encore plus resserré. Et donc leur espoir, c'était de venir cet été, passer quelques mois en France, en famille, etc. Et puis malheureusement en Afrique, l'épidémie part. J'ai pas envie de dire qu'elle repart puisqu'elle est jamais vraiment partie, mais elle part. On voit dans certains pays que les chiffres augmentent assez vertigineusement, notamment au Maroc, en Algérie, et donc. Les Françaises et les Français qui vivent dans ces pays-là voulaient ce petit, moment d'oxygène.
Et à cet égard, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ?
Mais nous, on essaye de négocier auprès des autorités, de pousser, de porter le fait qu'il faut faciliter les choses pour elles et pour eux. On a, depuis la période de confinement, il y a 250 000 Français qui étaient bloqués, qui étaient de passage, qui sont rentrés. 250 000, c'est pas rien. Et aujourd'hui, il reste encore des milliers de Français qui voudraient rentrer, passer une semaine, un mois en France et qui sont bloqués. Après, il y a aussi d'autres sujets, écoles par exemple, les écoles qui à la rentrée prochaine vont subir disons des pertes d'élèves. Et donc c'est la question de leur maintien qui est aujourd'hui posée.
Merci Mjidel Gharab.
Merci
à vous. Bonne journée.
Merci.